Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, trouver Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Apocalypse 22, verset 1. Et ils me montrèrent un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits et rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur le front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. On nous raconte qu'en 1980, un couple de retraités qui était inquiet par la menace d'une guerre nucléaire sont partis à la recherche d'un endroit sur cette terre où ils seraient le moins touchés si jamais leur inquiétude devenait la réalité. Un endroit paisible, un endroit tranquille, un endroit sécuritaire. Alors ils ont voyagé, ils ont fait des recherches, puis ils ont voyagé. Et finalement, ils ont trouvé l'endroit idéal. Et à Noël, ils ont envoyé une carte postale à leur pasteur de leur paradis. Et cela, c'était les îles Malouines. 2 ans plus tard, l'Argentine est entrée en conflit avec la Grande-Bretagne, transformant le paradis en zone de guerre. Guerre que les historiens appellent la guerre des îles Malouines. Et quelle déception. Et vous savez, depuis que Adam et Ève ont été chassés et expulsés d'Éden, le jardin de délices, le paradis terrestre, mais l'homme a toujours rêvé d'y retourner. Et voilà pourquoi on utilise ce terme, et surtout dans les pays tropicaux, pour décrire un séjour enchanteur ou l'état le plus heureux dont on puisse jouir. En 2005, notre famille, la famille Bridgman, a organisé une réunion familiale à la Barbade. Et pour inciter les gens à participer, un peu comme notre frère Denis fait pour justement la distribution des évangiles, il y avait un slogan. Et ce slogan était « Réveillez-vous au paradis ». Et en passant là-bas à la Barbade, il y a une plage qui porte ce nom, il y a un hôtel qui porte le nom. Alors le paradis, on le voit partout. On parle des oiseaux de paradis, des fleurs de paradis. Même j'ai découvert aussi qu'il y a des graines de paradis. Et dans la littérature, il y a une œuvre écrite par le célèbre poète britannique John Milton, Le paradis perdu. Et dans cette œuvre, on trouve cette déclaration, « Mieux vaut régner en enfer que de servir au paradis. » Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et que dirais-je du concept du paradis pour le musulman, pour le bouddhiste, ou même pour vous ce matin. Serait-ce pour quelques-uns parmi nous ce matin des vacances au sud, sur une belle plage, sans les enfants? Ou encore sur un terrain de golf, par une belle journée ensoleillée? Ou d'être enfermé dans votre bibliothèque, entouré de vos livres préférés? Ou bien encore être sur l'autoroute, sur votre Harley Davidson, le vent dans les ailes, pour ainsi dire? Ou bien dans votre boutique de linge préférée, avec un chèque en blanc signé par votre mari? Ou bien si vous êtes ado avec votre Xbox accès illimité, matin et soir pendant une semaine, et j'en passe. Vous savez, aussi plaisant que ces moments puissent l'être, ils ne sont pas éternels. Et pourquoi pas? Parce que la vie est incertaine, et même parfois tragique, et tout cela pourrait disparaître d'un moment à l'autre. Et en plus, au bout de la ligne, vous savez, il y a la mort. Comme on dit souvent, on n'a jamais vu un U-Haul derrière un corbillard. Vous ne pouvez rien apporter avec vous. Vous n'apprenez rien de nouveau. Alors désolé, chers amis, ce matin, il n'y a pas de paradis sur terre. Mais il y a un qui existera à l'avenir et qui existe même maintenant, que Jésus est en train de préparer pour ceux qu'il aime, le paradis de Dieu. Vous savez, j'ai intitulé le message de Dolce Vita, le nouveau paradis. Mais comment sera la vie dans cet endroit magnifique, cet endroit merveilleux? Alors ce matin, je propose l'étude d'Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 5, qui va nous donner trois éléments distinctifs qu'on trouvera dans le nouveau paradis. Trois éléments qui vont caractériser justement le nouveau paradis. Alors, dans un premier temps, tout d'abord, le nouveau paradis sera caractérisé, se distinguera par une joyeuse célébration de la vie. Une joyeuse célébration de la vie. Regardez votre texte, s'il vous plaît, au verset 1. Et le texte dit, « Il me montra un fleuve d'eau de la vie. » Allez au verset 2. Au milieu de la place de la ville, etc., etc., il y avait un arbre de vie. Et voyez comment le Saint-Esprit va renforcer, va marteler cette vérité que dans le nouveau paradis, il y aura une célébration de la vie en nous présentant justement le fleuve d'eau de la vie et aussi un arbre de vie. Deux éléments en passant, qui se retrouvait dans le premier paradis. Remarquant en ce qui concerne du fleuve de l'eau de la vie, remarquant que le texte ne dit pas que c'est un ruisseau, ou même un creek, comme on dirait en bon québécois, ni une rivière, mais un fleuve. Et qu'est-ce qui caractérise un fleuve? Qu'est-ce qui caractérise le fleuve, l'Amazone ou le Nil, ou même le Saint-Laurent? Il y a de l'eau. Il y a de l'eau aussi en abondance. Il y a beaucoup d'eau. Et vous savez que le nouveau paradis, ce symbole-là va nous dire ça tout de suite, que la vie au nouveau paradis sera une vie abondante. Et Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis et je suis venu afin que ces brebis-là aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et remarquez bien que dans le contexte, ce texte ne nous enseigne pas que Jésus veut que nous soyons tous riches et prospères, comme quelques-uns nous enseignent faussement. Jésus parle ici d'une vie spirituelle riche et abondante, qu'on peut déjà commencer à expérimenter ce matin, mais qu'on va connaître dans toute sa plénitude dans le paradis. Deuxièmement, le texte nous dit que ce fleuve est limpide. Dans le texte original, le mot veut dire brillant ou scintillant. Et ça, c'est un symbole de sa pureté. Vous savez, ça ne sert à rien d'avoir l'eau en abondance si l'eau est stagnante, ou polluée, ou même pas potable. Pensez pour un instant à un naufragé en haute mer. Il y a l'eau en abondance, mais il ne peut pas en boire. Malheur à ce naufragé, s'il en boit, on sait que ça va précipiter justement sa mort. Mais dans le nouveau paradis, de l'eau que nous avons là, qui présente et qui représente la vie, sera non seulement abondante, mais cela aussi symbolise la vie dans toute sa plénitude et dans toute sa richesse. Il y a un texte dans Ésaïe 40, Ézéchiel 47, pas besoin d'y tourner. C'est un texte qui est parallèle et qui parle de ce qui va exister dans le millénaire. Je vous lis le texte ici. On parle d'un fleuve, un torrent qui va justement sortir du sanctuaire. Et cette eau coulera vers le district oriental et entrera dans la mer morte. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer morte deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Vous savez, Jésus a dit dans Jean chapitre 4, c'est un texte qu'on va voir aussi tantôt, on a cette image de cette vie qui est riche et abondante. Troisième chose que j'aimerais aussi vous faire remarquer, que l'eau de ce fleuve sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Jean veut nous enseigner par justement ce texte qui nous dit que ce fleuve va sortir justement du trône de Dieu, l'agneau? Qu'est-ce qui caractérise Dieu et qu'est-ce qui caractérise l'agneau? Je vous donne deux textes. Jean chapitre 5 au verset 21. « Comme le pain ressuscite les morts et donne, remarquez bien, donne la vie. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Et dans Jean 5, 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Alors ce fleuve qui sort justement du trône de Dieu et du trône de l'agneau nous enseigne que la vie dans le nouveau paradis sera abondante, elle sera riche, mais elle sera aussi éternelle. Parce que Dieu et l'agneau, tous les deux, sont éternels. Et la source de cette vie est Dieu lui-même. Et ça nous amène à notre texte, dans Jean chapitre 4, où Jésus a dit à la femme samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusqu'à dans l'éternité. » Alors, bien-aimé, quelle joie! Quelle joie de posséder cette vie maintenant! Mais aussi, quelle joie d'anticiper sa plénitude dans le nouveau paradis. Psaume 46, un autre texte qui nous parle aussi du millénium, dit ceci, « Il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Dieu très haut. Et ce qui sera vrai pendant le millénium sera aussi vrai dans l'état éternel. » Deuxièmement, cette joyeuse célébration de la vie est démontrée non seulement par ce fleuve, mais nous avons aussi l'arbre de vie dans le nouveau paradis. Regardez votre texte au verset 2, s'il vous plaît. « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Et vous allez vous rappeler que dans le premier paradis, il y avait un arbre de vie. On voit que Dieu avait fait pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et il y avait aussi l'arbre de vie qui était dans le milieu du jardin. Et cet arbre de vie qui était là dans le premier paradis avait justement la propriété de donner la vie. Parce qu'après la chute, Dieu va dire, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger, de vivre éternellement. » Et vous savez, la suite de l'histoire, Adam et Ève ont été chassés du jardin et Dieu a mis un chérubin avec une épée flamboyante justement pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Cet arbre-là n'était plus accessible. Et dans le nouveau paradis, nous avons un arbre de vie. Et non seulement un arbre, mais certains commentateurs nous parlent aussi de la façon dont le texte décrit la ville, la place de la ville et ainsi de suite, qu'il s'agit ici d'une forêt, toute une forêt d'arbres. Le texte nous dit qu'on va manger de ses fruits, mais une chose est certaine, il va y avoir une récolte abondante. L'arbre produit 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Et là, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Jean va utiliser ici les marqueurs du temps? Il parle des 12 fois chaque mois quand on est dans l'état éternel. Alors, cette difficulté apparente, on l'explique en disant qu'il s'agit de ce qu'on appelle un anthropomorphisme. Grand mot qui veut dire qu'on va donner à certains événements ou bien à certaines choses, des caractéristiques de l'homme. Par exemple, on va parler du bras de Dieu. On sait que Dieu est esprit, pas le bras. Ou ses yeux, ou son oreille n'est pas trop dure. Et dans ce contexte ici, pour justement décrire cette situation, Jean va parler de l'abondance de cet arbre en utilisant justement des termes qu'on peut comprendre. Et nous lisons aussi que les feuilles vont servir à la guérison des nations. Deuxième difficulté. Quelles sont ces nations? Pourquoi ont-ils besoin d'être guéris si on est dans l'état éternel? Il n'y a plus de deuil ni douleur, la mort n'est plus. Je vous donne une explication que je trouve plausible. Selon certains, les nations sont des gens qui vivait sur la terre à la fin du millénium. Bon à voir. On sait que Satan est relâché. Ils vont parcourir la terre. Ils vont rassembler une armée de ces gens-là puis ils vont attaquer la ville céleste. Mais selon certains, il y a des gens qui ne vont pas suivre Satan. Et par ce fait même, ils vont rentrer dans l'état éternel parce que Dieu va justement détruire la terre, la première terre et le premier ciel après le millénium. Mais ils vont entrer dans l'état éternel sans avoir été ressuscités et ni avec un corps glorifié, mais transformés. Un peu à l'instar du corps d'Adam et Ève qui ont été créés pour vivre éternellement. Et dans le texte original, le mot guérison peut être traduit par le mot thérapie. Et qui ne signifie pas nécessairement la présence d'une maladie. C'est comme si on prend des vitamines. On ne prend pas les vitamines pour guérir justement le cancer. On prend les vitamines pour promouvoir une bonne santé. Et certains voient ici que justement que ces gens-là, avec des corps transformés comme Adam et Ève, vont justement prendre ces feuilles-là pour booster justement cette vie qu'ils ont. Cette vie qui va ressembler un peu à la vie d'Adam et Ève qu'ils avaient au début. Explication qui nous permet justement de comprendre cette difficulté. Et troisièmement, nous avons cette joyeuse célébration de la vie démontrée par justement le fleuve, démontrée par l'arbre, mais aussi troisièmement, le texte nous dit il n'y aura plus d'anathème. Plus de malédiction. Dieu n'aura plus besoin de maudire. justement comme il a fait au début de la première création, après que le péché est entré dans le monde. Et quand Dieu a commencé avec le serpent et a maudit le serpent, on dit que tu vas ramper maintenant désormais sur la terre et tu vas manger la poussière tous les jours de ta vie. Quand il a mis cette malédiction sur la femme en disant que tu vas maintenant désormais enfanter avec douleur, je vais augmenter justement les souffrances de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et il a aussi parlé de ce conflit qui allait exister entre la femme et l'homme, où est-ce que la femme va chercher à dominer son mari, ainsi de suite. Et aussi la malédiction qui est placée sur Adam. On dirait maintenant le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à la sueur de ton front que tu vas manger ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière. Et quelle parole tragique que Adam a entendue ce jour-là. Ça a dû glacer son sang. Et tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et même encore aujourd'hui, nous vivons avec ces conséquences, cette malédiction que Dieu a placée à cause du péché. Mais dans le nouveau paradis, il n'y a plus de péché. Et cette sanction sévère, Dieu va justement enlever. Plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Et il remplace cela par une joyeuse célébration de la vie. Il va ramener la création au début comme il a toujours voulu. Que la vie, on célèbre la vie. Et je vous cite un texte dans Job 38 au verset 4 où Dieu va dire ceci à Job. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? » Écoutez bien ceci. « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Et ça, chers amis, est le but divin de Dieu. Qu'on célèbre justement la vie, une vie riche. Une vie abondante, une vie joyeuse. Et ça, ça va se trouver dans le nouveau paradis. Laissez-moi vous poser une question ce matin, et je m'adresse à ceux et celles qui ont déjà reçu le don de la vie éternelle, qui ont déjà bu au fleuve de Dieu. Celles et ceux à qui Jésus a dit dans Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi des fleuves, d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ceux et celles de qui le prophète Ésaïe a dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Est-ce possible que ce matin, vous n'êtes pas en train de jouir d'une vie riche, abondante et joyeuse? Est-ce possible que ce fleuve qui devrait être en vous, cette source, ressemble plutôt à un ruisseau boueux ou même à un étang qui est stagnant. Vous savez, Jésus avait dit à Israël, « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point l'eau. » Et vous savez, si ce matin vous êtes dans une situation difficile ou bien vous vivez le découragement et vous avez mis Dieu de côté pour un moment, certes, vous ne perdrez pas votre salut, mais vous allez perdre votre joie. Ça, c'est sûr. Peut-être même ce matin, vous êtes en train de boire aux eaux polluées de ce monde. Et encore là, vous perdrez votre joie parce que vous allez attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui devrait vous combler, qui devrait vous remplir, qui devrait vous remplir de sa joie, la joie de vivre. Je rends grâce à Dieu ce matin parce qu'il nous donne justement une solution à cette problématique. Et la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Voilà la clé, la purification, purifier de toute iniquité. Et ça, c'est le désir de Dieu. Vous purifiez, me purifiez, afin que cette vie riche, abondante et joyeuse puisse couler de nouveau en vous, à travers vous. Et si vous êtes dans cette situation, ma prière pour vous ce matin, que vous puissiez dire avec David, parce que David a connu justement la tristesse à cause de son péché. Mais il est allé devant Dieu, il a confessé ses péchés, et il a crié à Dieu, « Oh Dieu, rends-moi la joie de mon salut. » Cette vie joyeuse, David, il y tenait. Et comme je dis dans le nouveau paradis, oui, on va justement célébrer la vie. Mais on peut commencer ce matin, déjà ici, bas sur la terre. Deuxièmement, non seulement le nouveau paradis se distinguera par une joyeuse célébration de la vie, mais aussi par un joyeux culte d'obéissance. Un joyeux culte d'obéissance. Dans notre texte au verset 3, 3b, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur le front. Et avant d'aborder justement l'explication de ce texte, j'aimerais juste sortir quelques points importants qui vont nous permettre de comprendre le texte. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une culte d'obéissance? Parce que les deux choses, la vie et l'obéissance, vont ensemble. On ne peut pas avoir un sans l'autre. Quand Dieu a créé Adam, et lui a donné la vie, mais sa vie qu'il avait dépendait de son obéissance. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Bref, Adam, tu veux vivre, obéis. Aussi simple que cela. Nous qui bénéficions de la vie éternelle que Jésus nous a procurée, comment est-ce que cette vie nous est venue? Mais c'est par l'obéissance du Fils. Jésus a dit ceci, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et quelle était cette volonté d'aller mourir sur la croix, donner sa vie en obéissance à son Père, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sous la loi, le commandement était, fais cela, obéis, tu vivras. Dans le Nouveau Testament, sous la grâce, le commandement est, puisque tu as la vie, obéissez. Alors cette relation étroite entre la vie et l'obéissance, dès le commencement avec Adam et Ève, maintenant, sous la grâce, et aussi dans l'éternité. Et dans le premier paradis, Dieu avait créé l'homme, il a soufflé dans, comme j'ai dit, dans ses narines, un souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Et cette vie qu'ils avaient était caractérisée par trois choses. Son image et sa ressemblance à Dieu. Il y avait une communion intime avec Dieu, et Dieu même lui avait donné aussi la domination sur la terre. L'homme était mis sur la terre avec une autorité que Dieu lui avait donnée. Et Adam pouvait jouir justement de cette qualité de vie à condition qu'il obéissait à Dieu, se soumettait à l'autorité de son Créateur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez tous l'histoire, il a rebellé. Il a perdu sa ressemblance à Dieu, il est devenu un pécheur, ennemi de Dieu. Il a perdu sa communion, il a été chassé du jardin. Il a perdu sa domination. Il a légué ça à Satan, au point que même aujourd'hui, Satan est connu comme le prince de ce monde. Et aussi, il a perdu sa vie, il a connu la mort. Et quelle façon de repayer Dieu qui était si bon à son égard par la rébellion. Et nous savons pourquoi est-ce qu'il a fait cela, parce que bon, Ève a été séduite, et Adam, les yeux ouverts, a justement suivi sa femme, et il a pris du fruit défendu. Et la ruse du serpent, c'était, vous allez devenir comme Dieu. Alors Adam voulait se soustraire de l'autorité de Dieu, établir son propre autorité et devenir comme Dieu. J'aimerais faire un contraste ici avec celui que la Bible appelle le dernier Adam, Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 2:6, pas besoin de tourner à ce texte, mais nous avons le parallèle. Jésus existant en forme de Dieu. Adam avait sa image et ressemblance, Jésus était Dieu lui-même. Le texte nous dit qu'il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, une chose à retenir à tout prix. Il n'a pas revendiqué son droit d'exister seulement comme Dieu sans ajouter l'élément humain. Adam voulait faire le contraire. Il voulait justement être humain, mais il voulait aussi ajouter l'élément Dieu. Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est rendu obéissant. Et ça, c'est notre thème pour ce matin. Obéissant jusqu'à la mort. Vous savez que l'histoire ne termine pas là. Parce que l'obéissance, et c'est le point que j'aimerais justement vous faire saisir ce matin, que l'obéissance amène toujours à la vie, parce que les deux sont liés étroitement. Et le texte nous dit que Dieu l'a souverainement élevé, et aujourd'hui, Jésus va donner la vie éternelle à tous ceux qui vont reconnaître sa souveraineté. Tous ceux qui vont mettre leur confiance dans cet acte d'obéissance sur la croix, eux vont connaître la vie éternelle. Et ça les prépare justement pour le nouveau paradis où l'obéissance est mise en évidence. Et j'aimerais ici alors vous faire remarquer cinq choses que nous avons vues dans le texte, que nous avons lu tantôt. Cinq choses à propos du nouveau paradis qui soulignent qu'il va y avoir un culte de l'obéissance qui s'y trouvera. Premièrement, et ça, c'est le point capital de ce texte au verset 3b. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ça, chers amis, c'est le point capital. Dans le nouveau paradis, Dieu va retrouver la place qui lui revient. Adam l'a bafoué, la rébellion. Dans le nouveau paradis, Dieu va être à sa place, sa juste place, la justice parfaite va être rétablie. Il faut commencer là. Deuxièmement, le texte nous dit que ses serviteurs le serviront. Il va y avoir une obéissance totale. Fini la rébellion. Dans le texte original, le mot ici veut dire « doulos », c'est « esclave ». Pourquoi le texte ne nous dit pas « ses saints le serviront » ou ses enfants le serviront. Parce que dans le nouveau paradis, Dieu n'est pas seulement souverain, mais il va y avoir aussi ceux qui vont se soumettre joyeusement à sa souveraineté. Ça, c'est le point qu'il veut dire ici. L'obéissance parfaite va être rétablie. Troisièmement, ses serviteurs verront sa face. Adam a perdu sa communion avec Dieu, chassé de sa présence. Dans le nouveau paradis ici, nous avons la communion et la ressemblance avec Dieu complètement rétablie. Jean nous dit que nous allons le voir, nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. Et pour voir la face de Dieu, on sera semblables justement à Dieu, semblables au Seigneur Jésus-Christ. La communion et la ressemblance rétablie. Plus besoin pour l'homme d'avoir peur. Plus besoin de se cacher loin de la face d'éternel Dieu, comme Adam en fait. Ses serviteurs vont se jouir d'une communion parfaite avec lui, comme Dieu a toujours voulu dès le commencement. Quatrièmement, ses serviteurs porteront son nom sur le front. Vous savez, quand Adam a péché, il est devenu le chef d'une race. Une race qui est esclave du péché et une race dont le péché a pris possession. Dans le nouveau paradis, les serviteurs de Dieu libérés de cet esclavage par le sang de l'agneau porteront fièrement le nom de Dieu, démontrant ainsi qu'ils sont sa possession. On appelle ça l'appartenance parfaite et rétablie. Et nous avons déjà dans Romains chapitre 6 au verset 18, « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Et finalement, ces serviteurs, si vous voulez, au verset 5, ces serviteurs régneront, bien sûr avec Dieu, régneront au siècle des siècles. Et cette domination qu'Adam a perdue par sa rébellion, la domination et l'autorité qu'il a léguée à Satan, Dieu va les rétablir en lui permettant de régner avec lui. De Timothée 2,12 nous dit ceci, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Vous savez, ça, c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Son mythe dit ceci, pose une question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui? Cette question-là va avoir une réponse dans l'éternité. Dans le nouveau paradis, l'homme sera toujours tout ce que Dieu a toujours voulu qu'il soit. Être à son image et régner avec lui. Et tout cela est possible à cause de l'obéissance de l'homme par excellence, le dernier Adam, notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas étonnant alors que dans le psaume 100, nous avons une exhortation tellement précieuse qui s'adresse aux serviteurs de Dieu déjà sur cette terre. Écoutons ceci. Psaume 100 nous exhorte de faire quoi? Servir l'Éternel, quoi avec joie. Commencez déjà ce temps de rendre ce culte joyeux à l'Éternel. De reconnaître sa souveraineté. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est là la clé. De savoir que nous lui appartenons. Nous sommes ses esclaves. Et de célébrer son nom en reconnaissant que l'Éternel est bon et que sa bonté dure à toujours. Vous savez, si nous étions honnêtes ce matin, vous et moi, alors on admettrait là, que l'obéissance complète, totale, nous pose problème. Je m'accule d'être. Peut-être pour quelques-uns, c'est plus difficile, mais la problématique est là. C'est pourquoi nous avons dans la parole de Dieu tant d'exhortations d'obéir. Ce n'est pas naturel. Et même des fois, en se donnant l'idée, là, je peux obéir à 99%, mais je garde 1% pour moi-même. Et vous savez, même si on est obéissant à 1%, on est désobéissant à 1%, on est un chrétien désobéissant pareil. Même si on est 99% obéissant. Si on est désobéissant dans 1%, nous sommes des chrétiens désobéissants. Alors, quoi faire? Je vous donne rapidement ici des suggestions qui pourraient vous aider, qui m'aident aussi dans justement cette lutte. Dans un premier temps, il est important de focaliser sur la croix. Parce qu'à la croix, vous avez le modèle par excellence de l'obéissance, le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous focalisez sur le Seigneur Jésus-Christ, vous avez justement un modèle pour vous inciter, pour vous encourager, justement pour vous fortifier dans cette lutte pour l'obéissance. Deuxièmement, méditez souvent sur ce que cet acte d'obéissance vous a apporté. Le pardon de vos péchés, la paix avec Dieu, la vie éternelle, le don du Saint-Esprit, une place dans la famille de Dieu, des frères et des sœurs qui s'aiment les uns les autres, un héritage éternel. Bref, vous avez la vie. Ça vient de l'obéissance de Christ. Troisièmement, acceptez d'être un serviteur. L'étiquette est là. Tite nous dit que le Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Vous et moi, nous appartenons à Christ. Et de toute façon, écoutez bien, là, il faut être esclave de quelqu'un. Ça, c'est inévitable. Vous allez être soit esclave de Dieu et connaître une vie abondante, ou esclave de votre vieille nature et d'être malheureux. Et ça, c'est la vérité en ce qui concerne justement l'obéissance. Dieu doit être sur le trône et l'homme doit être soumis à son autorité. Et comme j'ai dit, ceux et celles qui vivent dans la désobéissance, vous êtes condamnés à une vie, devrais-je dire plutôt une existence minable, terne, fade, pauvre, médiocre, sans joie. Ceux et celles qui sont obéissants connaîtront une vie riche, abondante, joyeuse. Et vous savez, le Seigneur Jésus-Christ est encore le modèle. En échange de la joie qui lui était réservée, le texte nous dit, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis où? À la droite du trône de Dieu. La vérité est encore là. Nous allons régner avec Christ dans l'éternité. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'humanité depuis le commencement, mais cela passe justement par l'obéissance. Et Dieu est tellement gracieux. Vous savez, quand on fait une pas d'obéissance, il nous remplit tellement de sa joie, tellement de sa paix, que ça nous donne justement le goût de vouloir continuer. Quel Dieu merveilleux, quel Dieu qui est bon que nous possédons. Et je termine avec ce dernier point, troisièmement. Une joyeuse célébration de la vie, un joyeux culte d'obéissance. Mais finalement, le nouveau paradis se distinguera par une joyeuse collation de la bénédiction. Une joyeuse collation de la bénédiction. Et ça, ce n'est pas le repas léger qu'on donne à nos enfants. Là. Le texte nous dit qu'il n'y aura plus de nuit, plus besoin de lampe, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Si vous regardez la version sommaire, parole vivante, le texte va dire ceci, « Le Seigneur Dieu répandra sa lumière sur eux. » Et bien sûr que dans la présence glorieuse de Dieu, on n'a pas besoin de lampe, on n'a pas besoin de lumière, les ténèbres ne sont plus là. Mais dans ce texte ici, nous avons une signification assez riche. Et je vous le partage. Dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur va dire ceci, que Dieu est bon. Et il va faire lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et le contexte du texte là, c'est d'exhorter les enfants de Dieu à ressembler à leur père et les exhorter à bénir ceux qui les maudissaient. Ça, c'est le contexte. Et c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Dieu bénit les méchants malgré leur méchanceté, en permettant que son soleil se répande sa lumière sur eux. Et dans l'éternité, dans l'état éternel, dans le nouveau paradis, cette illumination-là sera un signe, justement, que son peuple jouira éternellement de sa faveur et de sa bénédiction. Vous lisez deux textes dans Psaume 118, cette relation-là entre illumination et bénédiction est mise en évidence. Nous lisons ceci, « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. » Le texte, le contexte, c'est la bénédiction. « Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Et ensuite, « L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. » Et quand Dieu a ordonné à Aaron et à ses fils de bénir son peuple Israël, qu'a-t-il dit? Nombre 6, 23, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. » Vous le direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Et ça, c'est ce que le texte est en train de nous enseigner. La face de Dieu va luire sur son peuple pendant toute l'éternité. Comme signe, symbole de sa faveur, que ce peuple-là est béni. Est béni pour l'éternité. Et j'imagine Dieu en train de sourire en train de voir ses enfants-là jouir pleinement de cette vie riche, abondante et merveilleuse. Et en train de dire, ça c'est la vie. Ça c'est la vie. Vous savez que ce matin, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, la plus grande bénédiction que vous pouvez recevoir, c'est de ne pas gagner le 649. Jésus a dit que certes, un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. La plus grande bénédiction que vous pouvez recevoir, c'est d'avoir le pardon de vos péchés. D'avoir une place réservée dans le nouveau paradis. Et de vivre une vie déjà ici sur la terre, que Dieu a toujours voulu pour vous et pour moi dès le commencement. Soumis à son autorité, mais en train de jouir justement d'une riche, une vie qui est riche, abondante, joyeuse. Une vie aussi où est-ce qu'on est comblé de ses bénédictions. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, ma prière pour vous, c'est que vous puissiez justement régler cette chose, cette situation qui est tellement importante. Parce qu'une fois que vous avez quitté cette terre, vous allez vous trouver séparés de Dieu pour toute l'éternité. Ma prière pour vous, que vous puissiez le connaître. Et comme cet homme qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, par l'entremise de Philippe qui a prêché l'Évangile, le texte nous dit que joyeux, il a poursuivi son chemin. Quelle bénédiction! Cet homme est parti, le cœur rempli de joie. Il y avait la joie au ciel. Et il est parti pour vivre une vie justement de bénédiction avec son Dieu. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour la vie. Tu nous as créés, Seigneur, pour vivre et non pas pour mourir. Et même quand le péché est entré dans ce monde, tu as trouvé la solution afin de nous redonner cette qualité de vie que tu as toujours voulu. Pour nous dès le commencement. Seigneur, donne-nous d'apprécier tes plans pour nos vies. Donne-nous d'apprécier cette vie éternelle que tu nous donnes. Donne-nous, Seigneur, de jouir pleinement de ta grâce et de ta bonté. Sépare-nous avec ta bénédiction, nous te demandons au nom de Jésus. Amen.